Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, grande première au Manitoba la semaine dernière. Cette province est la première dans l'histoire à avoir élu un premier ministre issu des Premières Nations, Wab Kinew. Eh bien, j'en discute avec Félix Mathieu qui analyse cet événement pour nous. Il est professeur à l'Université de Winnipeg. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix.
Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
Bonjour, Guillaume Lavoie.
Antoine Robitaille, bonjour.
Expert en politique publique et chef du parti du covoiturage.
Tu vas voir, on est en train de gagner des membres. Là,
oui, jour. Hein?
Route par route, rue par rue, rang par rang, bientôt près de chez vous.
Il n'y a pas de match parlementaire aujourd'hui, puisque ici, on est en semaine de circonscription. Donc, les élus sont dans leur circonscription et parfois, ils prennent des moments de vacances. Ils ont bien le droit, ils le méritent. On va reprendre le segment vélo-économie qu'on fait habituellement le lundi, parce qu'on aime ça, parler de vélo. Puis, on a de plus en plus d'adeptes qui nous écoutent sur deux roues ou parfois même sur quatre roues.
Oui, mais surtout qu'on en parle avec une rhétorique nouvelle. Comme je te dis, on n'en parle pas parce que c'est gentil, parce que c'est pour l'air pur, parce que ça nous garde en santé, parce qu'on mange de la luzerne, ça c'est bien gentil, mais parce que c'est, et là j'en parle...
Tu veux dégranoliser le vélo?
Voilà, hein? T'as compris?
C'est ça!
Pour moi, le vélo, quand c'est... faut en faire quelque chose, il faut que ce soit une discussion tout à fait naturelle et évidente dans les chambres de commerce, chez Investissement Québec, à la Caisse, au Fonds de solidarité, c'est de l'économie, c'est de la performance, c'est de la productivité. Et là, je me disais, de quoi est-ce qu'on peut parler? Puis j'ai eu une nouvelle assez extraordinaire. Il y a eu cette déclaration commune et solennelle des trois plus importantes organes politiques de l'Union européenne. C'est-à-dire
ouais.
Le Conseil de l'Union européenne, qui n'est pas tout à fait ça, mais un peu genre le Sénat, le Parlement de l'Union européenne, et la très, très puissante Commission européenne.
Oui.
Et là-dessus, pour la petite histoire, moi, j'y ai été un stagiaire parmi d'autres en 2001-2002, et c'est fascinant. Là. C'est véritablement l'exécutif d'une des constructions politiques les plus importantes au monde. Juste pour rappel, Antoine, l'Union européenne, c'est 27 pays,
oui.
450 millions de personnes. Même si les Français n'acceptent pas le mot, c'est une fédération, une monnaie, une frontière et un seul marché d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs européens et des travailleurs européens et extraordinairement puissante au plan réglementaire parce que l'Union européenne ne fait pas de loi ou la Commission européenne ne fait pas de loi, elle fait des directives. C'est-à-dire, voici ce qui doit être et chacun des pays membres doit l'enchâsser dans ses propres lois. Par exemple, jusqu'à presque 60% des lois françaises émanent de Bruxelles.
Oui, alors on a ce géant. Les Français, pas toujours ça. En tout cas, les Britanniques, eux, ils étaient tannés.
Oui, puis là, tu vois à quel point ils ont fait un bon choix. Là, aujourd'hui, ils seraient prêts à voter dans un référendum pour y retourner, mais c'est de la gouvernance à multiples niveaux. Alors, des tensions dans une fédération, c'est la normalité de la chose.
Ouais.
Mais il y a trois gouvernements dans le monde, là, au plan de l'importance réglementaire et de l'impact sur les marchés. Il y a la Chine, il y a les États-Unis et il y a l'Union européenne.
Ouais.
Alors, quand un des trois dit quelque chose en plus sur le vélo, ben on porte oreille. Et là, c'est énorme, là. C'est une déclaration pour une politique vélo au niveau de l'Union européenne.
Okay.
Évidemment, on parle, en gros, je résume, là, le vélo, c'est l'avenir, ou l'avenir est vélo. Évidemment, pour des objectifs environnementaux, de mobilité, d'aménagement, de réduction des inégalités. Mais très rapidement, on tombe dans du concret, pour pas dire dans du concrete, dans du béton.
Ouais.
On dit que ça va prendre des infrastructures de qualité. Et là, nommément, on dit en site propre, et réservé, et protégé. Donc, ça veut dire pas juste la peinture sur le bord de la route, là. Littéralement, ce que vous avez à Québec, là, l'espèce d'autoroute vélo, ou le rêve à Montréal,
oui.
C'est ça maintenant le nouveau standard. Et l'Union européenne dit, c'est là qu'on s'en va. Et ça va prendre des dollars publics pour en faire et en faire plus. Alors, c'est pas rien, ça. Et quand on parle de véloéconomie, tu sais, mes vieux chiffres de véloéconomie, quand je parlais de l'Union européenne, là, je suis trop vieux.
OK.
Parce que, Antoine...
Il faut les mettre à jour.
Quand je t'en avais dit mes vieux chiffres, c'était que la véloéconomie, l'économie du vélo, ça comptait pour à peu près 635 000 emplois dans l'Union européenne. Mais
ouais.
Là, mea culpa maxima, c'est pas ça le bon chiffre. C'est 1 million. Et là, je prends la déclaration de l'Union européenne qui dit la véloéconomie, l'industrie du vélo, c'est 1000 PME.
Mm-hmm.
Hop. Et 1 million d'emplois avec un potentiel que ce soit encore bien plus. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se donner une politique d'abord de données. Au Québec, on n'a aucune idée de l'importance réelle de ce marché-là. On a des données parcellaires ici et là. Mais eux, en Union européenne, ils en ont plus que nous, mais ils disent qu'il faut vraiment pousser ça plus loin parce qu'on ne peut pas bien aligner les politiques sur ce qu'on ne connaît pas. Beaucoup de dollars à venir pour faire des infrastructures, mais aussi aider l'industrie, comme on fait avec l'industrie de l'auto, l'industrie de X ou de Y, et une plus grande coordination du réseau des infrastructures, par exemple pour de l'interconnectivité, pour pouvoir partir du train au vélo et à l'inverse. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que d'abord, c'est un des gouvernements les plus puissants et significatifs au monde.
Mm-hmm.
Mais tu sais, Antoine, lorsque Joe Biden, dans sa loi sur l'inflation, qui était dans les faits une loi avec des subventions massives pour l'économie verte, on a été obligés, nous, au Canada et au Québec, de très rapidement se dire où on fait la même chose, où on laisse passer le train.
Oui, mais les batteries, on investit dans les batteries pour ça, entre autres, là, pour concurrencer l'espèce d'offensive de Biden.
Et il a fallu le faire très, très rapidement, là. Parce que c'est là que s'en va un des trois gouvernements de la planète.
Mmh.
Et c'est un marché important. Mais là, il y a un des trois gouvernements de la planète qui dit l'avenir est vélo. Nous, on va mettre des politiques et des dollars pour ça parce que c'est une industrie majeure créatrice d'emplois et qui domine maintenant la croissance économique. Bien là, on a le choix. Je disais, avec Biden, on ne voulait pas manquer le train. Ici, est-ce qu'on va vouloir manquer le vélo? Sans faux jeu de mots. Alors peut-être qu'il va falloir nous aussi se dire... c'est pas normal que l'Union européenne ait une politique vélo et que nous, on n'en ait pas. Et là, je parle d'une politique économique du vélo. Alors, ça me ramène, il faut que le ministre Fitzgibbon ait dans son portefeuille quelque chose qui s'appelle vélo,
mm-hmm.
ne serait-ce que, soyons modestes, pour documenter la chose au départ. C'est certainement la première de toutes les étapes qu'il y a à venir.
Parlons maintenant d'un tout autre sujet, le conflit israélo-palestinien qui a été malheureusement redémarré donc ces derniers jours. Là, je veux que tu me racontes, 2006, tu étais en Cisjordanie quand il y a eu des élections législatives de l'autorité palestinienne, puis le Hamas avait été élu. Rappelle-nous un peu, puis raconte-nous comment tu avais vécu ça comme observateur étranger.
C'était vraiment quelque chose. D'abord, des élections comme ça, il y en a pas tous les jours. Il n'y en a pas eu depuis.
Non.
C'était les élections pour les élections législatives. Alors, moi, dans mon passé, puis j'en fais encore beaucoup, là. J'ai fait beaucoup, beaucoup dans mon passé, Antoine, de missions d'observation électorale à l'étranger. Alors, j'ai été des fois, c'est comme une structure militaire, là. Des fois, t'es comme un soldat de troupe, qu'on appelle un observateur court terme.
Ouais.
À peu près une semaine, 10 jours. Des fois, j'ai été comme une espèce de colonel ou des fois dans l'équipe cadre. J'ai été au Népal pendant 6 mois. J'ai été dans des pays à peu près partout sur la planète. Ça m'a permis, par exemple, d'aller 2 fois en République pseudo-démocratique du Congo. C'est exceptionnel comme expérience pour voir sur le terrain des moments CNN, mais aussi de prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain que tu ne pourrais pas avoir autrement ou difficilement autrement.
Mais qu'est-ce que Peux-tu reprocher, comment dire, la façon dont ils font des élections là-bas? Peux-tu émettre des reproches, par exemple?
Oui, et là, ce qu'il faut distinguer, puis là, parlons d'observation électorale 101, c'est une démarche presque scientifique. L'observateur tout seul n'a pas d'opinion. Il regarde, il documente, et tu sais, pour qu'on puisse dire qu'il y ait fraude, c'est qu'il faut qu'il y ait 2 choses. Il faut qu'il y ait un pattern, donc on voit quelque chose qui s'est répété dans plusieurs endroits, et il faut que ça ait un impact sur le résultat. C'est par exemple, moi j'avais fait les élections de la Révolution orange en Ukraine. Là, on avait inversé les résultats, mais pour être capable de savoir ça, c'est que le chef de mission qui peut parler intelligemment de ça parce que lui est le seul qui voit la forêt. Moi, comme observateur court terme à ce moment-là, j'étais dans un quartier de Ramallah.
Tu vois l'arbre. Ouais.
Alors, tu vois l'arbre, tu le documentes parfaitement, puis là, ben, ton rapport accumulé avec d'autres donne un portrait général.
Ça s'était bien passé en 2006?
Relativement bien passé. Il y avait eu des petites frousses ici et là. Il y avait des grandes préoccupations sécuritaires. D'ailleurs, la mission, à la dernière minute, avait décidé de se tenir uniquement en Cisjordanie et d'envoyer, je pense, qu'une personne ou deux du côté de Gaza à cause de préoccupations sécuritaires. Mais le Hamas avait été élu et ça, c'était un choc pour la planète.
Ben oui.
Parce que traditionnellement, c'était l'autre parti, le parti de Yasser Arafat, historiquement, Fatah. Et l'élection, bizarrement, c'était pas joué du tout sur quelle est votre opinion par rapport à Israël. Alors, le Hamas a toujours été la ligne dure, disons-le, parce qu'on va revenir là. Il y en a qui sont pas capables de dire que c'est une organisation terroriste. Ça l'est. Leur but dans la vie, c'est...
C'est pas une opération militaire là, qui a eu lieu.
Non.
Là.
Alors, hein? Ça, c'est... Je veux dire, il y a des moments honteux dans la vie quand des leaders politiques refusent de dire le mot terroriste en parlant du Hamas. Il y a des couardises organisées. Mais fondamentalement, le Hamas avait gagné à l'époque parce qu'il y a énormément de corruption, parce que les Palestiniens voulaient avoir des écoles, des hôpitaux. Bref, il y avait presque un certain espoir de pouvoir faire quelque chose. Mais il faut savoir que le Hamas, depuis, est revenu au sentiment premier de sa création, c'est-à-dire l'élimination de l'État d'Israël, l'anéantissement de l'État d'Israël et de sa population. Et il terrorise tant l'État d'Israël que la propre population palestinienne, particulièrement à Gaza, parce qu'il a un agenda islamiste radical. On est essentiellement presque dans les polices de la religion du type de l'Iran. Alors, de voir qu'au Québec, il y a des manifestations en appui au Hamas, c'est particulièrement honteux, parce qu'il est tout à fait possible soutenir la cause palestinienne, qui a des griefs tout à fait légitimes de reconnaissance juridique, de reconnaissance de territoire, de reconnaissance de souveraineté. Ça n'a rien à voir avec une critique sur le Hamas.
Mais non.
Et c'est là où est-ce que l'espèce d'amalgame entre les deux permet aux fins finaux de se sauver, là. Quand vous entendez, il y a des bonnes personnes des deux côtés, où il faut savoir, il faut relativiser, c'est très dangereux. Et c'est un piège particulier dans lequel tombe ou existe la gauche plus radicale. Regardez en France, la France insoumise, le bordel est pogné là-bas parce que même le Parti communiste français, Antoine, dénonçait le Hamas comme une organisation terroriste, mais une vaste partie de la gauche, qui est essentiellement l'alter ego de QS chez nous, et refuse de dire ces mots-là. Et il y a certains élus de QS ou encore à Montréal qui refusent de dire Hamas organisation terroriste. Ben, par exemple, pas tous, là, mais Haroun Bouazi, le député de
Maurice Richard.
Québec solidaire de Maurice Richard, donc ONCIC, lui, c'est toujours la même rengaine. Là. Je condamne la violence des deux côtés. On est même allé à la mairie de Montréal à dire je regrette les attaques militaires du Hamas. Des attaques militaires, là, vous allez voir des images bientôt qui commencent à arriver, des familles, des femmes et des très jeunes enfants assassinés et brûlés. Là. Ça, c'est pas des manœuvres militaires, c'est des manœuvres terroristes. Et de ne pas être capable de le dire, ça pose des questions à quelle allégeance et pourquoi. Et ça, c'est troublant, là. Alors, j'étais fier de voir que ici, ben, on met les drapeaux en berne, puis au niveau, à tout le moins, du gouvernement du Québec, il n'y a pas d'hésitation à être capable de dénoncer le Hamas comme une organisation terroriste. Et ça ne fait pas de ça un chèque en blanc pour la cause unique de l'État d'Israël, comme si les Palestiniens n'avaient pas des causes légitimes. Mais cette espèce d'amalgame entre les deux nuit à tout le monde, et là, il va y avoir véritablement un dérapage profond.
Il y a Ruba Gazal qui a écrit « Je condamne toutes les violences en Palestine et en Israël. Je condamne le gouvernement israélien d'extrême droite. Je condamne les actes du Hamas », elle le dit. « Je condamne l'apartheid subi par les Palestiniens. Il faut appeler à cesser toute escalade de violence. » Elle a dit ça le 7 octobre dernier.
La seule chose dans son... Évidemment, condamner les violences fort bien, c'est cette idée de dire « Je condamne le gouvernement d'extrême droite. » Pas que je défende le gouvernement actuel de l'État d'Israël, mais dans les démocraties, on n'a qu'un seul gouvernement à la fois. Alors, si ce gouvernement-là, puis les gouvernements à gauche n'ont pas été plus mous dans la défense des intérêts d'Israël, là, au contraire, alors que ce soit un gouvernement d'extrême droite, que ce soit un gouvernement de gauche ou de centre, il n'y a qu'un gouvernement de l'État d'Israël, et on ne voudrait pas, par exemple, que quelqu'un condamne le gouvernement de la CAQ du Québec, il n'y a qu'un seul gouvernement à la fois. Et là-dessus, une posture plus institutionnaliste est peut-être un meilleur garant des relations internationales que l'on veut envisager dans l'avenir.
Merci beaucoup, Guillaume Lavoie.
Au plaisir.
On se reparle seulement dans une semaine parce que je fais une petite pause à l'animation de Là-haut sur la colline.
Bon, mais on reprend ça dans une semaine.
Salut, merci.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchand d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca.
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Du Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Grande première au Manitoba la semaine dernière. Cette province est la première dans l'histoire à avoir élu un premier ministre issu des Premières Nations. Ça fait beaucoup de premières. Pour mieux comprendre ce que signifie la victoire de Wab Kinyou, on s'entretient avec Félix Mathieu. Bonjour Félix.
Bonjour Antoine.
Professeur de sciences politiques à l'Université de Winnipeg, qui est une université anglophone. Vous enseignez principalement ou uniquement en anglais, je pense.
Oui, exactement. J'enseigne uniquement en anglais au département de sciences politiques. Puis moi, j'enseigne dans le domaine de la politique canadienne et du fédéralisme comparé. Puis il faut comprendre, c'est également qu'au Manitoba, il existe l'Université de Saint-Boniface qui est associée à l'Université du Manitoba qui offre des programmes d'enseignement entièrement en français. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas à l'Université de Winnipeg où j'enseigne.
Revenons à la victoire de Wab Kinyou. Qu'est-ce que ça change pour les Autochtones? Parce que c'est un membre des Premières Nations, là. Est-ce que ça change quelque chose?
Oui, bien sur la symbolique, ça change tout. Parce que là, finalement, on a quelqu'un qui revendique l'identité autochtone, qui est reconnu dans son statut d'Autochtone, qui a plusieurs réalisations à son actif comme personne qui s'est engagée sur le long chemin de la réconciliation. Et donc, de voir Wab Kinyou, qui est par ailleurs un orateur extraordinaire, que ce soit dans sa langue maternelle autochtone, en français comme en anglais, il se débrouille vraiment, vraiment très bien pour soulever les foules. Et donc, c'est quelqu'un qui est très convaincant, qui parvient à rassembler également sur un ensemble de dossiers. Et pour ce qui est des enjeux spécifiquement autochtones, c'est qu'en fait, pour une part considérable des leaders autochtones, on semble, pour l'instant, à tout le moins, lui faire confiance dans sa démarche. Et donc là, en fait, plus on lui fait confiance, plus les défis sont énormes, parce que là, il va falloir qu'il livre la marchandise.
Mm-hmm. Et lui, il n'est pas métis, il est membre de la nation Ojibwe.
Oui, exactement, c'est ça. Il est né dans
l'Ontario.
De l'Ontario. Il a grandi au Manitoba, donc il est intégré là, à la société manitobaine depuis de nombreuses décennies déjà.
Mm-hmm. Et les métis, il y en a plusieurs encore qui parlent français au Manitoba.
Oui, en fait, parmi les communautés autochtones qui parlent français, la communauté métisse de la Rivière-Rouge est la principale. C'est celle qu'on retrouve également la plus populeuse dans la région de Winnipeg. Donc, le campement de base est la communauté de Louis-Riel, qu'on connaît bien au Québec pour la plupart.
Et le Manitoba a mauvaise réputation dans sa manière de traiter les Premières Nations. On a déjà lu des statistiques catastrophiques. La réconciliation, comment ça se passe là-bas actuellement? Puis l'état des communautés autochtones, comment on peut décrire?
Oui, en fait, au Manitoba, comme un peu partout dans l'Ouest canadien, en Saskatchewan, où on retrouve également beaucoup la proportion de membres de la population qui est d'origine autochtone, qui est autour de entre 15 et 25 % en fonction des statistiques qu'on met d'avant. Il y en a certaines qui sont en matière d'auto-identification, donc ça peut donner un effet de perspective également. Mm-hmm. Mais pour ce qui est des populations autochtones, elles sont surreprésentées de loin dans les institutions carcérales. Mm-hmm. Elles sont surreprésentées également sur tous les indicateurs de la pauvreté, des dossiers socio-économiques. Et donc, la réconciliation dans les provinces de l'Ouest, dans les prairies particulièrement, eh bien, c'est un combat qui est très visible. On le voit dans la rue, on le voit dans l'itinérance, dans les taux de criminalité également. Et donc, c'est un dossier qui se doit d'être prioritaire dans une campagne électorale comme celle-ci à laquelle on vient d'assister, qui s'est terminée le 3 octobre dernier. Et il y a eu un symbole, finalement. Ça a été un peu personnifié, tout le dossier de la réconciliation pendant les élections, qui est autour, finalement, d'un dossier à savoir est-ce qu'on doit aller effectuer des fouilles dans un dépotoir, le dépotoir de Prairie Green, qui est tout près de Winnipeg, puisqu'il faut comprendre qu'il y avait un dossier devant
criminel,
la police qui traînait, un dossier criminel, c'est un tueur en série qui aurait avoué à des policiers avoir enterré les corps de deux femmes autochtones portées disparues il y a plusieurs années maintenant. Mm-hmm. Il dit qu'il les aurait enterrées dans ce dépotoir-là. Et là, ben, ça a fait les manchettes et la question, ça a été de savoir, ben, est-ce qu'on met de l'avant toute une entreprise pour aller de l'avant avec des fouilles, ce qui nécessite beaucoup d'argent. On parle d'une somme qui pourrait monter jusqu'à 180 millions de dollars ici.
Ah, mon Dieu.
C'est quelque chose de très important. Et le gouvernement qui était en place à ce moment-là, dirigé par Heather Stephenson et les progressistes conservateurs qui ont perdu là, le 3 octobre dernier contre la NPD de Wapkinou, ben, eux, ils s'étaient présentés il y a à peu près deux mois et demi dans ce dossier-là en disant « Nous sommes vraiment désolés par cette situation-là, c'est terrible, mais nous ne pouvons pas engager ces sommes-là, elles sont trop importantes. Mm-hmm. » Et par ailleurs, le taux de succès n'est pas assez élevé pour justifier ces investissements-là. Mais on a insisté également sur un rapport qui a été rendu public qui indiquait que pour des enjeux de santé, ça deviendrait difficile de convaincre des gens d'aller effectuer ces fouilles-là. Et l'inverse, l'UNPD...
On peut imaginer... chercher dans un dépotoir.
Donc, c'est un dossier qui est extrêmement important, qui est symbolique également. Et du côté des progressistes conservateurs, on se disait, ben, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ils se sont fait critiquer d'être racistes, de manquer finalement d'empathie pour les populations autochtones. Et le NPD ne pouvait pas faire autrement, en plus, en la personne de Wapkinou à la tête de la formation, que de dire, ben, si nous sommes élus, nous allons aller de l'avant avec une fouille ici. Mais on ne s'est pas commis à savoir si on mettrait X montant d'argent. Et donc, ce qu'on vient de faire en élisant un gouvernement néo-démocrate, c'est qu'on vient de provoquer finalement une certaine certaine nouvelle ronde de négociations bilatérales entre Ottawa et le Manitoba, à savoir si Ottawa maintenant va accepter, lui, d'investir des sommes considérables pour aller de l'avant avec cette fouille-là.
Ah oui, il va y avoir des négociations. C'est ça qui va arriver.
Parce que Ottawa s'est déjà prononcé en faveur. Ouais. L'ancien ministre aux relations autochtones avait indiqué qu'il était, lui, prêt à aller de l'avant. Et ça avait mené, finalement, à un certain bras de fer entre le Manitoba et Ottawa. Et ça avait servi, pour un certain temps, aux forces progressistes conservateurs, parce qu'au Manitoba, finalement, s'il y a une couleur politique ou une formation politique qui n'est pas populaire, c'est bien celle de Justin Trudeau.
Ah oui? C'est très, très impopulaire. Oui, pour quelle raison?
Très impopulaire, en fait, qu'on va considérer par rapport à certains enjeux comme étant beaucoup trop sur la gauche, sur le spectre identitaire. Okay. Et donc, on va retrouver ici des gens qui vont davantage s'associer aux progressistes conservateurs. Et à l'inverse, ben, pour celles et ceux qui sont en faveur d'un plan énergétique, lutte contre les changements climatiques, on trouve qu'on est devant un gouvernement qui est en demi-mesure et qui fait certaines actions contre-productives. Et donc, en étant au centre, bien, on se retrouve finalement à déplaire un peu à tout le monde pour la population au Manitoba.
Vous avez évoqué Louis Riel tout à l'heure, Félix. Oui. Me dit, pour les francophones, pour le français au Manitoba, qu'est-ce que ça change, l'arrivée de ce nouveau gouvernement? Parce que je l'ai entendu, moi, à la télé, dire les droits des francophones sont souvent oubliés et négligés. Donc, c'est une affirmation forte. Alors,
tout à fait.
Pour les francophones,
Oui, ben même Wapkino a participé à plusieurs rencontres avec les leaders et des organisations de la société civile pendant la campagne électorale. Et chaque fois, il le fait en français, ce qui est quelque chose à quoi on n'est pas habitué d'avoir vraiment un leader de cette nature-là qui parle aussi bien le français et qui est conscient également des défis qui s'accompagnent autour de lui. On a vu qu'il s'est également accompagné, Wapkinou, de candidatures assez fortes avec un profil très important. Oui. Je pense à Robert Loisel, qui a été élu dans la circonscription de Saint-Boniface, qui était détenu jusqu'alors par le leader du Parti libéral du Manitoba, qui a donc mordu la poussière le 3 octobre dernier, et qui est pressenti, selon moi, avoir un siège autour du cabinet des ministres. Est-ce que ça va être un gros portefeuille? Peut-être pas, parce que ça demeure quelqu'un, M. Loisel, qui est nouveau dans la politique active, mais on pourrait voir également quand même quelqu'un ici qui pourrait jouer un rôle, notamment pour ramener de l'avant certaines institutions, bureaux aux affaires francophones qui avaient été finalement supprimés par le gouvernement de Brian Pallister avant qu'il y ait la transition avec Heather Stephenson.
Parlons de Pallister, justement. Nous, on l'a connu au Québec pour deux événements, là, ces publicités un peu détestables pour attirer au Manitoba les réfractaires de la loi 21 ici. Donc, c'est un opposant à la laïcité à la québécoise. Puis, l'autre fois, on l'avait vu plein d'émotions et de remords à l'idée d'annuler Noël en pleine pandémie. Qu'est-il advenu de Brian Pallister?
Oui, alors il est parti, même nous, au Manitoba, on parlait beaucoup de ses malheureux propos, ce qui a vraiment mené à son départ, c'était en juillet 2021, si je me souviens bien. Lorsque c'était vraiment autour des enjeux autochtones, où est-ce qu'il était sorti en mêlée de presse pour dire, mais il faut reconnaître quand même que les missionnaires, lorsqu'ils ont colonisé le pays, ils avaient de bonnes intentions. Et donc, en disant cela, ça a vraiment mené à sa perte. Le parti l'a abandonné, l'establishment l'a poussé carrément à un retrait beaucoup plus hâtif qu'il l'avait imaginé de la vie politique, ce qui a mené à la course au leadership où les enjeux de la réconciliation avec les peuples autochtones se sont avérés au cœur de la campagne, de la course au leadership. Ça a été au cœur des priorités de Heather Stephenson pour les premiers mois de son arrivée comme nouvelle première ministre du Manitoba. Mais après même pas six mois, on réalisait dans les intentions de vote que finalement, ça n'avait rien changé. Et graduellement, les progressistes conservateurs se sont délaissés de cet enjeu de réconciliation. Le l'ont laissé finalement au NPD de Wapkinou. Mais pour Brian Pallister, c'est quand même une personnalité qui est très clivante parce que justement, il avait l'habitude de prendre position de manière très ferme sur des enjeux très complexes, sur le coup de l'émotion. Et donc, autant sur ses campagnes publicitaires contre la loi 21, il parlait de ses 21 bonnes raisons de déménager au Manitoba. Ouais. Il avait sorti comme ça, c'était très rapide, c'était très hâtif. Et également, pour ce qui est de l'idée de dire, mais il faut pas canceller Noël, c'est trop important dans le sillage des différents mouvements identitaires qu'on peut associer au wokisme. Mais ici, on sentait que c'était vraiment ses tripes qui parlaient et ça pouvait autant plaire à un électorat qu'en déplaire à l'autre. Et donc, c'était une personnalité qui était très clivante, mm-hmm. autant appréciée que détestée, finalement.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon du Manitoba nouveau sous WebKinU, Félix Mathieu.
Ben, ça fait plaisir.
Au plaisir de se reparler. Je rappelle que Félix Mathieu est professeur de sciences politiques à l'Université de Winnipeg. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous reviens la semaine prochaine puisque je pars quelques jours en reportage. Et je vous en parle à mon retour.
Cube Radio.